Bonsoir, auditeurs de VOA Afrique. Abdourahman Dia au micro pour ce nouveau numéro d'À votre avis. Hier, la Banque mondiale a annoncé un nouveau programme d'aide au continent de 57 milliards de dollars sur les 3 ans à venir. Et pourtant, depuis les indépendances, des centaines de milliards ont été injectés en Afrique, alors que la pauvreté et le sous-développement restent présents plus que jamais, plus que partout ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, plusieurs pays ont lancé de vastes programmes d'investissement pour l'émergence, mais comptant encore une fois sur l'aide et l'investissement étranger. Alors la question que nous posons ce soir est la suivante. L'aide au développement doit-elle être supprimée puisque depuis bientôt 60 ans, l'Afrique reste le continent le moins développé malgré cette aide? Nous avons Malik Sis, qui est rédacteur en chef Soleil Business à Dakar, donc en ligne depuis la capitale sénégalaise. Bonsoir Malik.
Bonsoir Monsieur Dia.
Vous allez nous accompagner tout au long de cette émission. Nous aurons également en ligne nos auditeurs. Alors, ma première question pour vous, Malik, doit-on supprimer l'aide au développement?
Bon, je crois que supprimer l'aide au développement serait lourd de conséquences. Moi, je dirais plutôt qu'il faut réformer l'aide au développement à l'Afrique parce que depuis les indépendances, comme vous l'avez dit, l'Afrique reçoit des milliards de dollars d'aide et la pauvreté elle est toujours là, la corruption elle est toujours là. Je pense qu'il faut revoir la façon d'aider le continent africain pour que cette assistance soit plus efficiente et qu'elle soit mieux ressentie par les populations africaines.
D'accord, donc il faut réformer l'aide. D'accord, vous restez en ligne avec nous, Malik. Et le temps d'aller justement à Bamako, retrouver un auditeur, Amadi Bakayoko. Amadi, bonsoir.
Ah oui, bonsoir, monsieur.
Vous vous dites que c'est pas une question de milliards. Le problème, c'est après la rencontre tendue et déçue, ils en profitent souvent. Est-ce que vous pouvez développer un peu votre idée?
Oui, bon, le problème en Afrique, c'est pas une question de milliards ou de question de dollars comme ça.
Quel est le problème?
Oui, le problème est que entre l'Afrique et l'Europe, on doit avoir une commerce équitable. Et il faut que les dirigeants africains assument leurs responsabilités.
D'accord. Et si on prend l'exemple du Mali depuis la crise de 2013, il y a eu quand même beaucoup d'argent qui a été injecté au Mali. Est-ce que vous sentez cette aide étrangère?
Mais en vrai, on a eu beaucoup d'argent, mais on n'a rien vu de solution ici. On ne sait même pas comment cet argent-là, on est distribué, où il vient même. On ne sait même pas d'où il vient cet argent, où... C'est des hiérarchies ici, quoi. On ne sait même pas, même moi, si tu vois que j'ai dit, avec la rencontre de Merkel et Donald Trump.
Oui.
Parce qu'on sait que l'Europe n'a plus de... entre l'Europe et l'Amérique, il n'y a pas assez encore... Parce que l'Europe n'a plus confiance avec l'administration de Trump.
D'accord. Bon, on a compris votre point de vue. Merci d'avoir appelé depuis Bamako. De Yaoundé, nous avons Mamadou Mota. Mamadou, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, quel est votre point de vue sur la question de l'aide au développement?
Mon point de vue, c'est qu'actuellement, supprimer l'aide publique au développement, ça deviendra une catastrophe. Parce que pour moi, il faudra d'abord se poser la question, pourquoi est-ce que pendant longtemps, ces pays africains ont été tributaires de cette aide publique au développement? C'est parce que en réalité, il y a des problèmes réels. Et devant ces problèmes, est-ce que la profondeur du problème peut être suffisamment comblée par le montant de l'aide publique au développement qu'on nous envoie? Cette question me permet de relever un aspect qui est celui que tous les Africains connaissent. L'année dernière, le montant global de transfert de la diaspora vers l'Afrique était 10 fois ce que constitue aujourd'hui l'aide publique au développement. Cela ne nous a pas permis de nous développer et dire que le problème est vraiment profond et que pour moi, l'aide publique au développement devrait plutôt être repensée en termes de montant, en termes de stratégie de mise en œuvre.
Quand vous parlez de montant, vous pensez qu'il faut plus ou qu'il faut moins, quand vous parlez de montant?
Il faut plus et il faut également revoir la méthodologie. À qui est-ce qu'on envoie cet argent? C'est aux États. Et nous connaissons comment nos États sont gérés actuellement. Est-ce que la Banque mondiale ne devrait pas repenser plutôt son partenaire direct en matière de société civile?
D'accord.
Il est plus facile d'atteindre les bénéficiaires directs à travers la société civile que de passer par des États où de l'argent peut être envoyé et se détourner à d'autres fins.
D'accord, merci beaucoup Mamadou.
Donc, le supprimer serait une fatalité.
D'accord, on a bien compris. Alors Malik, cet auditeur de Yaoundé pense qu'il faut plutôt revoir, disons, la coopération et voir à qui il faut envoyer cet argent. Et pourtant, les ONG quand même jouent de plus en plus un rôle important dans la gestion de cette aide et ça n'a pas du tout résolu le problème. Ou bien vous pensez que plutôt qu'ils ont plutôt aidé à mieux gérer ces fonds ou à les gérer de façon plus efficace?
Oui, Abdourahman, je crois que le problème se situe dans la façon dont cette aide est gérée. Si vous vous rappelez bien, durant les premières années des indépendances, les pays donateurs reversaient directement aux États africains. Et à l'arrivée, on s'est rendu compte que c'était une formule très inefficace. C'est ainsi que les ONG sont intervenues dans le processus avec plus ou moins de bons résultats. Et la question est toujours là. Les donateurs injectent de plus en plus de milliards de dollars en Afrique. Et pourtant, la pauvreté, elle est toujours là. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il fallait revoir la façon d'aider l'Afrique. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de débloquer des milliards, il s'agit plutôt d'obtenir de bons résultats, parce que l'aide doit servir quand même à quelque chose. Et on constate que souvent les pays donateurs privilégient plus le taux de décaissement par rapport à l'efficacité. Et c'est pourquoi je disais qu'il faut exiger des pays africains des résultats. Et bon, il faut reconnaître aussi que les responsabilités sont partagées. Les conséquences de les causes de l'inefficacité de l'aide ne sont pas seulement à chercher au niveau de l'Afrique. Les pays donateurs ont une part de responsabilité en ciblant de façon inappropriée leur assistance au continent africain.
D'accord. Et c'est peut-être la raison pour laquelle cette idée de supprimer l'aide au développement a quand même des adeptes. L'économiste zambien Dambisa Moyo estime que plus de 1 000 milliards de dollars ont été injectés en Afrique par le biais de l'aide au développement sans vraiment que l'objectif ne soit atteint. Donc ce sont peut-être des éléments comme ça qui font l'argument de ceux qui pensent qu'il faut peut-être se passer de l'aide au développement.
Oui, l'inefficacité de l'aide pourrait apporter de l'eau au moulin des partisans d'une suppression de l'aide. Mais il faut leur rappeler que l'Europe, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, était à genoux et elle a pu se relancer grâce à l'aide des États-Unis à travers le plan Marshall.
Mais c'était quand même une aide ponctuelle, elle n'était pas continue sur 60 ans.
Elle n'était pas continue, voilà. Mais le plan Marshall, je dis que le plan Marshall était bien réfléchi, était bien pensé, était très bien appliqué par les Européens.
Vous pensez qu'il faut un plan Marshall pour l'Afrique?
Tout le contraire de l'Afrique. On injecte des milliards de façon inappropriée qui finissent dans les poches de nos politiciens.
Vous pensez qu'il faut un plan similaire pour l'Afrique, un plan Marshall bis, si on peut le dire?
Bon, je ne dirais pas un plan Marshall, parce que ce serait une sorte de mimétisme ou d'imitation, mais je pense que c'est aux intellectuels africains de penser à la meilleure formule pour une aide efficace.
D'accord.
C'est ça qui manque justement à l'Afrique. On pense les modèles de développement de l'Afrique à partir de l'extérieur, mais jamais à partir de l'Afrique. Ça, c'est un problème qu'il faut résoudre dès maintenant, je crois bien.
D'accord. Nous allons en Guinée retrouver Tierno. Apparemment, Tierno n'est plus en ligne. Nous allons à Yamoussoukro retrouver Youssouf Ouédraogo. Youssouf, bonsoir.
Oui, bonsoir. La VOA Afrique, aux auditeurs, à la rédaction, aux invités.
Alors vous dites que l'aide internationale au supposé développement de l'Afrique profite beaucoup plus aux dirigeants africains qu'aux enfants d'Afrique eux-mêmes.
Effectivement, nous avons pour preuve les différents taux de croissance glorifiants qui se moquent, n'est-ce pas, de la misère sociale de moins en moins supportable en Afrique. Alors, juste pour le plaisir des institutions internationales, beaucoup plus affiliés aux chiffres des statistiques officielles flatteurs, loin, loin, loin des réalités que les Africains vivent ici. Alors, ce qui serait profitable aux Africains, c'est la décentralisation déconcentrée, n'est-ce pas, des richesses naturelles africaines. Une certaine façon pour l'Afrique de savoir compter objectivement sur soi-même afin que l'aide internationale ne soit qu'un complément. Parce que cette aide, à force de vouloir trop attendre cette aide ou prévoir cette aide dans les différents budgets que l'on vote chaque année, ça fait que le développement se traduit justement dans soit le manque à gagner de cette aide qui parfois tarde à venir ou les conditions de cette aide qui prend en otage le développement de l'Afrique. Et ça, nous nous disons non, parce que nous, les peuples, en tant que peuple africain, nous sommes les premiers à subir les conséquences de cette aide-là qui n'arrive vraiment pas à destination comme souhaité.
Est-ce que vous pensez que c'est un problème de ressources humaines plutôt que de ressources financières naturel, même si on peut le dire ainsi, puisque ce n'est pas le volume de l'aide qui est remise en question, il y a assez d'argent, mais on ne sent pas les résultats sur le terrain, Youssouf.
Effectivement, moi je pense qu'il y a un problème de vision, il y a un problème d'infrastructure, il y a un problème de suivi qui fait que cette aide-là n'est pas véritablement destinée au bien-être des enfants d'Afrique comme l'on tente de nous faire croire, mais beaucoup plus aux dirigeants, à ceux qui sont au-dessus des affaires en Afrique. Alors que quand vous prenez par exemple les exemples, quand vous allez dans des coins reculés en Afrique où on peine même à trouver de l'eau potable, on peine à trouver des centres de santé, on peine à trouver de l'école, ainsi de suite. Je prends un exemple. Ici en Côte d'Ivoire, une loi a été votée pour obliger tout le monde à aller à l'école de 6 à 12 ans, je crois bien. Mais quand vous allez dans les agglomérations, la réalité est tout autre. Il y a bien des zones reculées où l'école ne ressemble même pas à une école du 19e siècle. Mais c'est aberrant. Alors que quand vous prenez le développement, on a l'impression que le développement en Afrique s'affilie beaucoup plus à la propriété de la capitale de chaque pays africain que les réalités de la sous-région ou de l'intérieur des différents pays.
D'accord, Youssouf. On me dit que Thierno Omar Diallo est de nouveau en ligne depuis Conakry. Thierno, vous pensez que l'aide au développement doit plutôt aller vers la formation des jeunes. Est-ce que vous pouvez développer un peu votre idée?
Oui, bonsoir la VOA et bonsoir à l'ensemble que vous avez dit. Ce que je disais tout à l'heure, que les aides de développement doivent changer de stratégie, car dans sa forme actuelle, il n'est tout simplement d'être supprimé. Car il n'y a pas des avantages significatifs sur le terrain. Nous ne savons pas où est destiné exactement les milliards qui viennent de l'Union européenne et la Banque mondiale et des grandes puissances. Vous voyez, ça serait mieux que désormais les aides des grandes puissances soient destinées à la formation de la jeunesse. Directement des ONG pilotées par des jeunes, hein, les montants qu'on débloque, les montants et qu'on donne aux jeunes qui gèrent les ONG pour bien former la jeunesse africaine. Au lieu de nous donner des milliards chaque fois, il n'a qu'à nous donner des moyens pour nous apprendre comment créer des milliards. Vous savez, l'Afrique est très riche, mais il n'y a pas de gens compétents pour faire des ressources. L'Afrique en manque de ressources humaines. C'est ça le grand problème chez nous en Afrique. Les aides actuellement, dans sa forme actuelle, n'apportent rien de positif au continent africain.
D'accord.
Ça, à mon avis, mérite d'être revu et changé.
D'accord, merci beaucoup.
La future génération prend leur destin en main avec l'aide de grandes puissances.
Merci beaucoup, Thierno Omar Diallo. Alors, Malik, cet auditeur de Conakry a parlé de la nécessité d'investir dans l'éducation, mais les programmes de la Banque mondiale sont souvent critiqués justement parce qu'ils demandent souvent des coupes dans des secteurs sociaux comme l'éducation, la santé. C'est un problème, non?
Oui, c'était ça le gros problème avec la Banque mondiale. C'est des politiques qui sacrifient souvent le social, l'éducation, la santé, etc. Et quand on applique ce genre de politique dans les pays sous-développés, c'est vraiment aggraver la misère des populations locales. Mais permettez-moi de souligner un autre problème qui est à l'origine aussi de l'inefficacité de l'aide en Afrique. C'est le caractère conditionnel même de cette aide-là. Parce que, par exemple, un pays qui vous donne 10 milliards de dollars, il conditionne cet argent-là avec l'achat, par exemple, de matériel agricole fabriqué par ses propres entreprises. Ça, c'est une façon détournée de rapatrier même cet argent qu'on est supposé mettre au profit de l'Afrique. Et malheureusement, c'est ce qui se passe dans la plupart des domaines, cette condition conditionnelle-là.
Ça profite plutôt aux bailleurs, en fait.
Et concernant aussi les politiques de la Banque mondiale, toujours, je crois que l'institution financière internationale s'était rendue compte que cette façon de sacrifier le social a été très inefficace au fil du temps. Et on se rappelle le cauchemar des programmes d'ajustement structurel, et depuis l'avènement du nouveau président américain, du nouveau président Kim Jong, le président de la Banque mondiale, l'actuel président de la Banque mondiale, ils ont essayé au moins d'avoir une nouvelle orientation beaucoup plus humanitaire dans les interventions de la Banque mondiale.
D'accord.
Maintenant, quant à revenir en arrière pour sacrifier le social, je crois que c'est ajouter un autre problème au problème.
D'accord. On me dit que Youssouf est toujours en ligne, mais nous allons rapidement prendre Bakary Keïta à Bamako. Bakary, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, quel est votre point de vue sur le débat d'aujourd'hui? Faut-il supprimer l'aide au développement ou pas?
Bon, on ne fait pas quand même tourner dos à l'aide au développement. C'est important, mais il faut essayer de changer peut-être. Oui. À mon avis, il n'y a pas aussi un contrôle suffisant, quoi. C'est-à-dire les donateurs doivent aussi contrôler à la lettre l'utilisation quand même judicieuse de ces fonds. Souvent, nos dirigeants vraiment dilapident ces fonds à des fonds personnels, alors qu'il n'y a pas quand même de suivi. Moi, ce que je demande vraiment aux institutions de Bretton Woods, même s'ils donnent quand même des moyens financiers, il faut quand même qu'ils suivent vraiment à la lettre. Et aussi, je vous ai dit quelque part, Mao disait qu'au lieu de donner toujours du poisson à quelqu'un, mieux vaut l'apprendre vraiment à pêcher.
Un point de vue très, très intéressant. Alors, Youssouf, quelle est votre réaction sur ce que vient de dire Bakary Keïta?
Écoutez, c'est très important ce qu'il a dit, parce que moi, je prends un exemple, par exemple, une fois de plus en Côte d'Ivoire ici, qui reçoit une aide internationale par le passé, conditionnée par l'augmentation du prix du coût de l'électricité, beaucoup plus utilisée par la population. Alors, on a de quoi à vraiment se poser des questions sur l'objectivité ou le réel bien fondé de cette aide-là, qu'il ne faut pas confondre à un don. L'aide internationale reste toujours remboursable, peu importe les régimes en place. Malheureusement, cette aide-là rend beaucoup service aux dirigeants plutôt qu'au peuple supposé recevoir cette aide-là et pouvoir profiter de cette aide-là.
Et aux fonctionnaires internationaux également, qui partent en mission en Afrique avec des périodes assez consistant, c'est un peu aussi l'une des critiques qu'on leur fait, non?
Tout à fait. Effectivement, quand on voit aujourd'hui le taux de l'immigration dans la Méditerranée et tout, c'est dû à cette aide-là qui ne produit pas véritablement les fruits escomptés. Et moi, je pense qu'il y a un véritable problème de suivi qu'il faut revoir. Et puis, il faut revoir aussi les conditions de cette aide-là. Si l'aide ne sera pas profitable au peuple, je ne vois pas pourquoi un État aurait à s'entêter à recevoir cette aide-là. Si c'est juste pour le plaisir ou pour le bien des dirigeants, je ne vois pas trop quelle est l'utilité, étant donné que la population s'accroît de jour en jour. On a un taux démographique incontrôlé ici en Afrique, tant bien même que les chiffres nous donnent d'autres indications, mais je pense que les réalités restent toujours les mêmes. Il faut aller à la source des problèmes pour voir exactement qu'est-ce que l'Afrique peut faire avec ce qu'elle produit, afin que l'aide internationale soit un complément pour ce qu'elle fait déjà.
Alors, Malik Sis, justement, notre auditeur de Yamoussoukro, Youssouf, vient d'évoquer la question de l'immigration clandestine. Et on peut dire que c'est un peu, disons, la conséquence de l'échec de toutes ces politiques de développement. Mais la réponse semble être d'injecter encore plus d'argent pour essayer de contenir ce flux de migrants vers l'Europe.
Effectivement, l'immigration clandestine n'est que la conséquence de l'échec des politiques de développement. Parce que si ces jeunes avaient du travail chez eux, ils n'allaient pas risquer leur vie dans les pirogues. Et ça, cette question-là aussi, ça interpelle et les pays qui délivrent cette aide-là, de même que les chefs d'État africains. Et je crois que la question de l'immigration clandestine nous rappelle de façon triste les devoirs de l'Afrique vis-à-vis de ses propres enfants.
Et nous avons, nous avons tous ces pays, que ce soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, tous ces pays ont mis en place des programmes dits d'émergence. En fait, ce sont ces pays qui enregistrent encore de plus en plus de jeunes sans travail.
Oui, les programmes d'émergence, bénéficier de leurs fruits d'ici peut-être 5 ou 10 ans, parce que par exemple le cas du Sénégal, on se projette à l'horizon 2035 et je crois que la Côte d'Ivoire c'est un peu bien avant cela et ces programmes peut-être auraient dû être appliqués bien avant et c'est dommage que l'Afrique après plus de 50 ans d'indépendance veuille lancer des programmes d'émergence après avoir constaté que les programmes appliqués jusqu'ici ne tirez pas le continent hors du sous-développement.
D'accord. D'accord. Nous avons un auditeur de Djibouti, Oumar Nassa. Oumar, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, quel est votre point de vue sur le débat d'aujourd'hui?
Je crois que l'aide au développement, c'est très important pour l'Afrique. C'est un continent que nous avons besoin parce que c'est un continent en développement. Le problème, c'est ce qui pose problème, c'est les hommes politiques en Afrique qui ont des intérêts personnels à accomplir, par exemple des ventes ou l'achat des jets privés, l'achat de villas, le fait de construire des bâtiments assez importants, assez luxueux à l'étranger. Donc la personne ordinaire, les citoyens ordinaires n'en profitent pas de ces mannes qui viennent de l'extérieur, surtout des ONG et des bailleurs de fonds. Donc ce qui est très important, c'est la solution qu'il faut chercher. La solution, c'est quoi? La solution, c'est de mettre en place une commission constituée des institutions internationales comme l'FMI, la Banque mondiale, qui mettent en place des gens qui sont capables d'éradiquer ces fonds qui se perdent comme ça dans la nature et qui sont et mettre en place des organes qui luttent contre la corruption et le détournement des fonds. Parce que franchement parler l'Africain, c'est-à-dire la personne ou les jeunes Africains. Pourquoi l'immigration? Parce qu'il n'a pas de perspective dans son pays. Et donc, il est poussé à la recherche d'Eldorado et un avenir meilleur. Et ça entraîne ce qu'on voit aujourd'hui dans la Méditerranée. Donc,
d'accord. Merci, Oumar.
C'est moi qui vous remercie.
Merci bien. Alors, Youssouf, rapidement, je vous vois très actif dans les réseaux sociaux. Pourquoi les leaders, d'opinion, si on peut le dire ainsi, ne prennent pas un rôle plus actif dans le débat sur la gestion de l'aide au développement?
Écoutez, déjà, il faut dire grand merci à VOA Afrique qui a toujours ouvert le débat et qui nous a toujours permis de nous exprimer. C'est pas du tout le cas ici, en Côte d'Ivoire ou forcément partout en Afrique. Hein. Et je pense que d'une certaine manière, peu importe le niveau que chacun de nous a, déjà le fait de prendre la parole sur les antennes permet, n'est-ce pas, à des millions d'Africains de prendre conscience de ce que nous vivons, de ce que nous devons chercher à faire pour notre bien-être et pour le bien-être de ce continent.
D'accord. Merci beaucoup. On arrive presque au terme de cette émission. Alors, Malik, un dernier mot avant de nous quitter, en quelques secondes.
Oui, je crois que, comme je l'avais dit au départ, supprimer l'aide publique au développement serait une grossière erreur. Et je crois que le défi, c'est repenser cette aide-là afin que l'Afrique puisse en tirer le meilleur profit. Il n'y a pas un seul pays qui s'est développé sans assistance. Mais aussi, l'Afrique doit pouvoir compter sur ses propres ressources.
Merci.
Les ressources humaines, tout comme les ressources naturelles. Voilà.
Merci bien, Malik. Vous êtes rédacteur en chef au Soleil Business à Dakar. Merci à tous les auditeurs qui ont appelé. Au revoir.